Dans le monde complexe de la médecine vétérinaire, chaque jour apporte son lot de questionnements, de décisions importantes et de responsabilités professionnelles. L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec propose donc ce balado pour vous accompagner, vous informer et partager avec vous des projets inspirants. Avec des interventions de professionnels variés, des initiatives du terrain et des conseils concrets, nous plongerons au cœur de la profession. C'est à écouter PRN et renouveler aussi souvent que nécessaire.
Au cours des dernières années, l'anesthésiologie des animaux de compagnie a évolué à vitesse grand V. Se tenir à jour dans cette discipline représente un réel défi pour le médecin vétérinaire généraliste. Nouvelles drogues et modalités de surveillance anesthésique, analgésie multimodale, nouveaux outils de reconnaissance de la douleur, comment s'y retrouver? C'est un constat qu'on fait à l'Ordre lors des rencontres d'inspection professionnelle. Les difficultés en matière d'anesthésie et d'analgésie des animaux de compagnie sont fréquentes et font souvent l'objet de recommandations. On sait que le médecin vétérinaire doit exercer sa profession dans le respect des normes de pratique reconnues et en conformité avec les données actuelles de la science médicale. Mais quelles sont ces normes en 2025 dans un contexte de pratique générale? Pour avoir un meilleur aperçu de la question, on vous présente aujourd'hui une discussion entre le Dr Frédéric Rousseau-Blas, qui est spécialiste en anesthésiologie et en analgésie vétérinaire, et la Dr Véronique Gélina, qui est inspectrice conseil à l'Ordre. Ils aborderont ensemble et clarifieront certaines notions fréquemment soulevées par l'inspection professionnelle. Bonne écoute!
Bonjour Frédéric, merci d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à nos questions.
Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Donc, commençons par discuter de certaines notions de sécurité anesthésique. Tout d'abord, parlons d'examen préopératoire. Est-ce que c'est essentiel d'effectuer un examen physique préalable à une anesthésie générale?
Oui, donc bonne question. Souvent, le fait de faire l'examen est assez clair pour le vétérinaire, mais des fois, c'est le timing puis le temps par rapport au dernier examen là, qui pose problème. Donc, pour répondre simplement, oui, c'est important là, de faire un examen, c'est essentiel. Puis ça a été démontré là, que quand cet examen-là n'est pas fait ou n'est pas enregistré, n'est pas rapporté dans les notes médicales, c'est associé avec une mortalité périanesthésique plus élevée.
Puis quand est-ce qu'on devrait faire cet examen-là? S'il a été, exemple, examiné pour ses vaccins au cours des semaines précédentes, est-ce qu'on devrait répéter l'examen ou on peut se fier sur l'examen précédent?
Ben, pour répondre à cette question-là, il faut juste revoir pourquoi c'est important de faire un examen. Là, ça paraît peut-être un peu de base ou simpliste, mais l'important, c'est que la personne, donc le ou la vétérinaire qui s'occupe du patient durant l'anesthésie, connaisse bien son patient finalement. Elle soit capable de connaître son historique, connaître c'est quoi ses anomalies au niveau de l'examen physique pour adapter son approche. Donc, si jamais le même vétérinaire qui a fait l'examen, mettons, une ou deux semaines avant, refait son anesthésie, à ce moment-là, il connaît déjà son patient, on peut peut-être avoir un examen un peu plus focusé sur les systèmes importants comme cardio-respiratoire, neuro. Dans les guidelines de l'AHA, ce qu'ils mentionnent, c'est qu'un examen devrait être fait dans les 12 à 24 heures avant l'anesthésie, idéalement le matin ou avant l'anesthésie, donc la même journée, pardon. Et ça devrait être répété même dans la journée si à tout moment, son état change. Donc, par exemple, le chien était rentré, il était en top forme, puis avant son anesthésie, il fait quelque chose de bizarre, il y a une crise épileptiforme, il se met à vomir, bien, on réexamine le patient pour être sûr et certain qu'il n'y a rien qui a changé.
Parfait, super. Puis par examen ciblé, dans le fond, quel système tu juges qui sont pertinents d'examiner avant une anesthésie générale, en supposant qu'on connaît déjà bien le patient?
Ouais, donc pour un patient standard, je dirais que c'est sûr et certain, cardio-respiratoire, c'est important. Donc au niveau cardiovasculaire, ben une auscultation thoracique, savoir la présence ou l'absence de souffle, d'arythmie, c'est quoi la fréquence cardiaque, est-ce que la fréquence cardiaque de ce patient-là est normale par rapport à ce que je m'attendrais, la prise de pouls, est-ce que le pouls est concordant, de bonne qualité, le remplissage capillaire, donc le temps de remplissage capillaire, la couleur des muqueuses, des choses quand même de base. Au niveau respiratoire, ben juste au repos, la fréquence respiratoire, un patron respiratoire aussi, est-ce qu'il est normal? Pour tous les patients brachycéphales, bon, on va mettre une grosse emphase là-dessus, puis on peut même voir si leur patron respiratoire change avec un léger effort. Auscultation thoracique, évidemment, des bruits anormaux. Au niveau neurologique, là, on ne parle pas nécessairement d'un examen neurologique complet si le patient ne démontre pas de signes cliniques compatibles avec un problème neurologique, mais déjà juste de voir c'est quoi son tempérament, c'est quoi son état d'éveil, ça va nous permettre là, d'adapter notre approche anesthésique. Puis par la suite, si dans cardio, respi, neuro, on a des anomalies ou dans tout autre système là, comme gastro-intestinal, bon, on peut recommander des examens complémentaires pour en fait s'assurer qu'il n'y a pas d'anomalie ou d'anomalie importante avant l'anesthésie.
Puis, est-ce qu'on devrait prendre la température?
La température, en fait, oui, ça, c'est important. La seule chose, c'est que dans certaines études qui sont parues récemment, entre autres chez le chaud, ça peut être un petit peu plus difficile à prendre si le tempérament s'y prête pas. On peut adapter la prise de la température au moment où le patient est déjà sédaté. Dans le sens où, avant son anesthésie, mais après la prémédication, je m'assure que la température, elle est normale si le patient était peu coopératif pour diminuer le stress du patient, là, puis au niveau éthique, là, pas lui faire subir une prise de température dont il n'a pas besoin nécessairement quand il n'est pas sédaté. Donc oui, on l'apprend, le TPR, c'est important. Puis même, on devrait ajouter un quatrième paramètre qui est la présence de douleur. Donc si on pense que le patient est douloureux, en médecine humaine, souvent le TPRD, là, D pour douleur, c'est recommandé justement pour mettre en place déjà des thérapies pour contrôler là, cette douleur-là.
Ça nous permet de faire un suivi aussi plus facilement en post-opératoire.
Tout à fait.
Maintenant, une question qui soulève beaucoup de questionnements de la part des vétérinaires, c'est le fameux cathéter intraveineux. Est-ce que le cathéter intraveineux devrait être mis en place d'office pour les procédures de courte durée? Par exemple, la castration féline ou une sédation profonde pour une procédure diagnostique?
C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Je me la fais poser souvent, là, puis il y a beaucoup d'anesthésistes là, au Québec qui reçoivent ces questions-là. Juste pour avant de répondre à cette question-là, juste mentionner là, que pour la plupart des questions, j'ai fait quand même un consensus, puis j'ai consulté là, mes collègues anesthésistes qui travaillent au Québec pour s'assurer qu'on était tous sur la même longueur d'onde. Puis aussi, on a révisé là, évidemment là, toute la littérature par rapport à ces recommandations-là. Pourquoi je parle de ça, c'est qu'en fait, il peut y avoir plusieurs opinions. Si on se fie juste à c'est quoi qui est le mieux pour le patient et pour également le personnel qui va s'occuper du patient, je peux pas vous recommander de ne pas mettre de cathéter intraveineux avant une anesthésie générale ou avant une sédation profonde. C'est clair dans toutes les lignes directrices que l'utilisation d'un cathéter intraveineux va augmenter la sécurité du patient puis diminue significativement les risques de mortalité périanesthésique, que ce soit les guidelines de l'AHA ou de l'AFP qui listent le cathéter intraveineux dans leurs actions pour mitiger le risque ou dans leurs équipements essentiels. Donc, ça a l'air d'une réponse simple, finalement. Oui, faut le faire, puis ça s'arrête là. Maintenant, il y a une discussion qui peut être amenée, c'est que même si pour le patient au niveau médical, c'est clair qu'il faut mettre un cathéter intraveineux, la réalité de la clinique fait qu'en ce moment, il y a à peu près, là, c'est pas une estimation précise, là, mais de ce qu'on observe, environ 50% des cliniques qui ne mettent toujours pas de cathéter intraveineux pour les castrations félines ou pour des sédations là, de moyenne ou longue durée ou pour des procédures sous sédation. Donc, pourquoi cette différence? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour tenter de diminuer les risques du patient? Cette différence-là provient du fait qu'on a un argument de temps et de coût à considérer dans notre médecine vétérinaire. Puis, à ce moment-là, des fois, il y a des gens qui vont me dire que ben la pose du cathéter intraveineux va faire augmenter le prix de leur castration chat ou va rallonger leur castration chat, au-delà de ce qui est tolérable. J'aurais tendance à dire que cette question-là, je la vois un peu comme il y a 5, 6, 7, 8 ans, quand on parlait de l'analgésie post-opératoire qui était optionnelle. Hein, on voyait ça des fois dans les formulaires avant les chirurgies. Est-ce que vous voulez que votre patient reçoive l'analgésie, exemple la INS, puis il y avait un coup de plus? Maintenant, ça nous semble une pratique qui est archaïque, là. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, je crois qu'on est toujours en constante évolution. On se continue de s'améliorer comme profession et je crois que la pose du cathéter, si on se reparlait dans 5-10 ans, ça va être inclus pour toutes les procédures sous anesthésie. Pour faire une réponse simple, donc, on sait ce qu'on devrait faire, pourtant, c'est pas toujours fait. Je crois que le minimum devrait être pour les procédures de courte durée, moins invasives, comme une castration chat. Déjà, je parle pas de castration chat ici. Je parle vraiment de castration chat qui est beaucoup plus rapide chez un patient en bonne santé. Au minimum, si on ne met pas de cathéter à toutes nos anesthésies générales, on devrait au moins le recommander au client. Ça, je crois que c'est vraiment important. Puis ça sera à eux, s'ils sont bien informés, évidemment, de décider est-ce qu'ils vont mettre, là, choisir cette option-là si dans votre clinique, c'est une option.
Dans le fond, mettre le cathéter intraveineux d'office, c'est la meilleure pratique, mais il faut minimalement le recommander. Puis, c'est pas une conversation qu'on a sur le coin du comptoir avec le client. Il faut quand même lui expliquer en détail qu'est-ce que ça implique un accès veineux pour la procédure.
Définitivement, parce que évidemment, le client ne pourra pas prendre une décision bien informée s'il se fait juste offrir de payer plus cher ou moins cher pour la même procédure. Donc, il doit comprendre que la pose du cathé, ben, ça va nous permettre d'intervenir rapidement en cas d'urgence. Déjà, qui va faire une grosse différence dans notre capacité à réanimer le patient. De plus, ça va nous permettre d'avoir une induction à effet. Donc, éviter les inductions au masque, entre autres, ou les inductions intramusculaires à des dosages plus élevés. Puis, ça va nous permettre aussi là, d'ajuster la profondeur anesthésique du patient de manière beaucoup plus contrôlée. Donc, souvent en donnant juste assez de drogue pour avoir l'effet désiré avec moins d'effets secondaires. Je voudrais juste rajouter un petit point. Là, je tiens à mentionner que j'exclus quand même tout ce qui est la pratique en refuge là, où la mission populationnelle est différente de la mission individuelle d'une clinique. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est différent. Puis, je veux quand même le ressouligner parce que c'est très important. Pour moi, il n'y a aucun argument pour ne pas mettre un cathéter intraveineux dans toutes les autres situations. Donc, un patient avec des risques augmentés comme un chien brachycéphale, un patient anesthésie générale pour une procédure qui est invasive comme une OVH, une dentisterie, même un chat qui viendrait pour une castration, mais qui a des risques augmentés, comme par exemple le fait qu'il a un souffle cardiaque. Mais tout ça devrait là, vraiment nous pousser à mettre un cathéter intraveineux. Pour les sédations, je pense qu'on continue à s'améliorer par rapport à ça. On se rend compte que les sédations, il n'y a pas moins de risques durant une sédation que durant une anesthésie générale, même qu'on pourrait argumenter qu'il y en a plus parce que souvent, on n'a pas justement toujours un cathéter intraveineux, puis on n'a pas toujours un monitoring adéquat. Donc, pour ces sédations-là aussi, on devrait le recommander là, dans la plupart des cas.
Parfait, super. Puis quand on parle d'accès veineux, est-ce qu'un papillon tapé peut remplacer le cathéter IV?
Oui, le fameux papillon tapé. Tu sais, je comprends que des fois, c'est utilisé, exemple, dans des cas d'euthanasie, par exemple, où l'agent pour l'euthanasie est administré de manière intraveineuse. Le patient ne bouge pas. On est directement avec lui. On s'assure que on garde l'accès veineux fonctionnel. Puis s'il n'est pas fonctionnel, bien, on a un plan B rapidement. En anesthésie, on a plein d'autres choses à faire. On va devoir souvent déplacer le patient. Donc, un papillon tapé, malheureusement, va souvent mener à une extravasation là, du produit anesthésique. Donc, soit parce qu'on a perforé là, le vaisseau, la veine, ou parce qu'on est ressorti là, avec les mouvements. Donc, pour moi, ça remplace définitivement pas là, un cathéter IV, donc intraveineux bien installé là, pour une anesthésie générale ou une sédation.
Parfait, super. Puis pour les animaux exotiques qui ont un gabarit qui le permet, est-ce que c'est le même principe au niveau de l'accès veineux?
Oui, donc j'ai la chance là, de collaborer fréquemment avec des gens qui font une super job avec l'anesthésie des patients exotiques. Puis c'est la même chose au final. Dès qu'on peut avoir un cathéter intraveineux, exemple chez le lapin, chez le furet, chez certains oiseaux selon leur taille, évidemment, chez certains reptiles, ben on doit favoriser cette approche-là. En plus, on sait que souvent, les animaux exotiques, il y a beaucoup de variabilité dans leur réponse à l'anesthésie, puis des fois dans nos connaissances par rapport à ces espèces-là. Donc, avoir un cathéter, je pense, est encore plus valable. Je pourrais ajouter que si jamais vous faites, exemple, des tout petits mammifères où c'est impossible là, de mettre un cathéter intraveineux, on devrait quand même avoir la capacité et les connaissances pour mettre un cathéter intra-osseux temporaire, dans le sens où je le ferais pas d'office parce qu'il y a plus là, de risque de complications à le faire. Mais si jamais il y avait une complication, il faut être capable rapidement d'intervenir, puis ça va beaucoup nous aider d'avoir cette modalité-là pour injecter là, nos produits d'urgence, là, donc nos drogues d'urgence. Fait que tous les hôpitaux, toutes les cliniques vétérinaires qui font beaucoup d'exotiques devrait se familiariser avec cette approche-là pour les très petits patients.
Mais merci beaucoup, Frédéric, pour les éclaircissements sur cette fameuse question.
Ouais.
On va passer à, par rapport à la prémédication, est-ce que c'est encore recommandé d'administrer d'office là, un anticholinergique comme le glycopyrrolate ou l'atropine en prémédication?
Oui, c'est une bonne question, là, les fameux BAG ou AG, là, donc butorphanol ou hydro, donc un opioïde, la cépromazine, puis un anticholinergique, donc le glycopyrrolate intramusculaire. Premièrement, ce que je vais dire ici, là, c'est pas une règle absolue. Il peut y avoir des exceptions, mais en effet, on a évolué depuis le temps où on donnait ça d'office à tout le monde. La raison étant que de donner un anticholinergique dont le but est de diminuer notre tonus parasympathique pour, entre autres, augmenter la fréquence cardiaque, c'est pas adapté à tous les patients. Il y a beaucoup de patients chez qui ils sont déjà tachycardes de par peut-être une mauvaise gestion de leur stress préopératoire ou de par la présence de douleurs. Donc, pour eux, ben, ils n'avaient pas besoin de recevoir un anticholinergique. Puis, c'est pas parce qu'on le donne en pré, donc intramusculaire dans notre prémédication, que ça garantit son efficacité et on ne doit pas mesurer, entre autres, la pression, la fréquence cardiaque. Donc, ça nous donne peut-être un faux sentiment de sécurité. Maintenant, je dis pas que je l'ai jamais fait, puis c'est là où je dis qu'il peut y avoir des exceptions. Des fois, on fait l'anesthésie d'un chien qui est connu avec un tonus vagal élevé, exemple un patient brachycéphale. Je fais mon évaluation préopératoire, puis il est déjà bradycarde avec une arythmie sinusale respiratoire importante ou même des arythmies, là, des bradyarythmies. Bon, on pourrait le considérer à ce moment-là. Mais en général, j'aime toujours mieux avoir ces mesures-là, puis l'option de le donner intraveineux là, pour avoir un effet aussi plus rapide et plus prévisible.
Puis parlant de BAG ou AG, est-ce que l'utilisation de prémélange anesthésique est encore acceptable?
Ouais, ça c'est aussi une autre question que je me fais poser souvent. Je vais combiner les deux questions. Pour le glycopyrrolate, j'ai dit qu'il peut y avoir des exceptions. Je vais donner une autre raison, pardon, avant de parler du mélange, mais ça fait partie de ça, dans laquelle j'en mettrais pas là, des glycopyrrolates IM, à part le fait que c'est pas aussi efficace, pardon, puis que c'est pas indiqué pour tous les patients, c'est quand il y a des drogues comme les alpha-2 agonistes à bord de notre mélange. Donc, je donnerais pas, exemple, de la dexmélétomidine avec du glycopyrrolate intramusculaire en même temps, parce que comme vous savez sûrement, la dexmétomidine va causer une vasoconstriction avec une bradycardie réflexe et le glycopyrrolate, lui, va demander au cœur malgré tout d'augmenter en fréquence cardiaque. Donc, ça pourrait augmenter le travail cardiaque puis causer des arythmies puis des problèmes là, au niveau cardiovasculaire. Donc, une autre raison de pas le donner puis surtout pas dans ce genre de mélange-là. On peut donner du glyco chez un patient qui a déjà reçu de la dexmélétomidine quand il est dans la phase où la vasoconstriction n'est plus présente et donc associée avec de l'hypotension et une bradycardie. Pour les mélanges justement comme un Kitty Magic, justement le BAG, le AG, est-ce que c'est encore adéquat? Je peux pas vous dire que on connaît les interactions médicamenteuses ou en fait les interactions pharmacologiques, pardon, des différentes drogues dès qu'on les mélange parce que les concentrations vont changer, parce qu'on va avoir des mix différents. Donc, en effet, ces mélanges-là, il n'y a aucune manière dans la littérature de s'assurer que c'est encore stable, que c'est qu'il y a une compatibilité pharmacologique, donc qu'il n'y aura pas, exemple, de la précipitation. Puis évidemment, quand on fait des mélanges comme ça, en général, c'est pour les garder un certain nombre de temps et donc on s'expose à des risques de contamination. Donc, j'aurais tendance à dire que si jamais pour qu'une clinique, là, la manière qu'une clinique fonctionne, c'est d'utiliser ce genre de prémélange-là. On devrait en faire maximum pour la journée, puis après ça, on devrait se départir là, des médicaments qui ont été mélangés. Puis une fois de plus, dès qu'un vétérinaire garderait les mélanges plus longtemps, ben il expose sa responsabilité là, si jamais il y a de la contamination, des problèmes de compatibilité, des problèmes aussi de perte d'efficacité. Fait que c'est sûr que ça, on n'a pas là, les études pour dire qu'à telle température, puis à telle exposition à la lumière, après tel nombre de ponctions dans la fiole, un mélange exactement de drogue A, B, C va être stable. Tant de jours, on les a pas, là, ces évidences-là. Dernière chose que je voudrais mentionner, c'est que même si vous utilisez un pré-mélange anesthésique, on devrait quand même être capable d'adapter notre protocole au patient. Donc, c'est pas parce que, exemple, on a un Kitty Magic puis qu'on donne tant d'ml par kilo du mélange qu'on ne devrait pas adapter notre protocole. Donc, le chat A, il est beaucoup plus calme que le chat B, puis le chat B aussi est obèse, mais on devrait rentrer ces facteurs-là dans notre évaluation matinale quand on regarde le patient, puis être capable justement là, d'adapter notre protocole pré-mélange ou pas.
Donc, on fait attention dans l'utilisation des prémix.
Oui, tout à fait.
Par rapport à l'induction, dans quelles circonstances est-ce que c'est acceptable d'induire un animal à l'isoflurane?
Un peu même début de réponse que la question d'avant. Là. Ce que je vais vous dire là, c'est pas une règle absolue. Il peut y avoir des exceptions, puis on en parlera, mais en général, on évite à tout prix là, les inductions au masque, donc les inductions aux agents volatiles comme l'isoflurane. Une des raisons étant que au niveau cardio-respiratoire, il y a beaucoup plus de dépression parce qu'on dépend de cette drogue-là, exemple, pour faire passer notre patient de l'état sédaté à l'état anesthésié. Et c'est une drogue qui a plus d'effets cardio-respiratoires que beaucoup des drogues injectables qu'on a. Donc, première chose, plus d'impact négatif pour le patient. Aussi, plus de contamination souvent pour les membres du personnel qui sont autour du patient. Puis c'est sûr et certain là, que avec cette contamination-là, là, ben, ça, il peut y avoir des enjeux de santé là, pour les membres de notre personnel. Donc, c'est dur de le justifier. Maintenant, est-ce qu'il y a des exemples où ça peut être considéré? Ben, si notre patient est déjà très bien sédaté, pour une raison ou une autre, on n'est pas capable d'avoir d'accès intraveineux, puis c'est notre seule option, comme dans certaines espèces exotiques. Mais à ce moment-là, c'est faisable. C'est beaucoup moins dommageable quand une bonne partie de la profondeur anesthésique du patient dépend de sa prémédication. Donc, il est déjà bien sédaté, puis on augmente juste un peu sa profondeur avec un agent volatile. C'est beaucoup mieux que de prendre, par exemple, on voyait souvent avant des chats agressifs qui se faisaient mettre dans une, soit ça peut être dans un sac ou dans une boîte hermétique, puis dans laquelle on partait l'isoflurane. Donc, je clarifie mon propos. Là, ce chat-là n'avait aucune prémédication, n'avait aucun effet sédatif, d'aucune drogue que ce soit. Puis là, bon, on partait de zéro à anesthésie seulement avec l'isoflurane. Dans ce moment-là, c'est sûr qu'on cause beaucoup là, de détresse aux patients. Puis ça, c'est le dernier point. Il faut penser à l'aspect éthique de la chose. Là. En plus de l'aspect sécurité, c'est que le patient, ça va être très irritant pour lui. Il peut se mettre à hypersaliver. Puis, c'est pas là, quelque chose que je souhaiterais là, à mes animaux là, ou aux animaux de n'importe quel client. Donc, pour cette raison-là, ça peut être utilisé dans certaines exceptions, comme exemple des certaines espèces exotiques ou un patient, un très petit patient chez qui on n'a pas réussi à avoir de cathéter arrivé puis qui est déjà bien sédaté, mais ça devrait se limiter à ces exceptions-là.
Puis, par exemple, le chat qui est sur le Kitty Magic est quand même déjà bien sédaté, qu'il en manque juste un tout petit peu pour être capable de l'intuber. Est-ce que ça serait quand même acceptable dans une circonstance comme ça?
Oui, ben justement, dans cette circonstance-là, on a déjà un protocole où on a, exemple, Kitty Magic, ben, un opioïde, un alpha-dagoniste puis la kétamine. Donc, je m'attends au minimum à une sédation profonde, peut-être même qu'ils sont déjà anesthésiés, donc intubables. Puis c'est à ce moment-là que si on veut approfondir un peu avec l'isomasque, c'est pas parfait, mais pour moi, c'est plus considérable que les autres exemples que j'ai donnés avant. Là.
Parlant d'intubation, est-ce qu'on devrait intuber nos castrations félines?
Ça aussi, c'est une question qu'on a souvent. Mm-hmm. La fameuse castration féline, au final, est tellement rapide et nous apparaît simple qu'on se dit, ben, est-ce que j'ai besoin de prendre les mêmes précautions? La réponse va peut-être apparaître un peu simpliste, mais s'il est intubable, il devrait être intubé. Ce que ça veut dire, c'est que si le patient a perdu ses réflexes de protection des voies respiratoires, c'est qu'il est anesthésié et c'est qu'il devrait être intubé. Maintenant, il y a des castrations qui se font sous sédation. Puis c'est pas non éthique. Ça dépend un peu de notre approche là, analgésique entre autres, mais une sédation profonde avec un bon bloc intratesticulaire, avec des INS puis des opioïdes, ça peut être tout à fait faisable. Et comment est-ce qu'on regarde si notre patient est anesthésié ou sédaté? Ben c'est qu'on regarde s'il est intubable. Donc, j'ouvre la gueule, je vois que quand j'avance là, mon tube vers les arythénoïdes, il n'y a pas de toux, il n'y a pas de réflexe de protection. Donc, à ce moment-là, mon patient devrait être intubé. Il y a des études en passant là, qui datent du début des années 2000 là, dans lesquelles, si vous voulez mon humble avis, il y avait beaucoup de biais, mais qui mentionnait que l'intubation féline augmentait les risques de complications périanesthésiques. Puis malheureusement, là, cette croyance-là est restée dans le folklore et aussi justifiée souvent de ne pas intuber les chats. J'aurais tendance à dire que les biais de ces études-là, c'est que c'était fait dans des pratiques avec des degrés de formation très différents. Pour ma part, là, bon, ça va faire, mettons, 8 ans là, que je fais de l'anesthésie à temps plein. On va dire 10 à 15 procédures à tous les jours, dont plusieurs chats. Puis c'est rarement moi qui les intube, les chats. C'est souvent des techniciens et des techniciennes qui ont été formés par moi ou par d'autres anesthésistes. Et à ce moment-là, en 8 ans, je n'ai jamais eu de complications reliées à l'intubation d'un chat. Là. Et puis ça, ben, ça passe beaucoup par la formation, par comment est-ce qu'on enseigne aux gens, même si c'est des gestes simples comme gonfler le ballonnet, mais comment le faire, comment s'assurer de ne pas le surgonfler, comment bien fixer nos tubes pour pas qu'ils bougent. Donc, je suis convaincu là, que si ces études-là avaient été faites dans des cliniques qui étaient bien formées, mais il n'y aurait pas eu de corrélation là, entre l'intubation et les risques de complications. Donc, juste pour répondre à la question, si nos patients sont intubables, chat et chien, ils devraient l'être intubés. S'ils ne sont pas intubables, il faut décider est-ce qu'on accepte de ne pas l'intuber. Je vous donne un exemple. Un patient brachycéphale, mais un chien brachycéphale qui a déjà un phénomène obstructif au niveau des voies respiratoires supérieures, même pour une sédation, des fois, je vais dire, ben on va convertir la sédation en anesthésie de courte durée, puis je vais l'intuber justement pour diminuer là, cet effort inspiratoire-là, puis justement essayer de protéger ses voies respiratoires contre les régurgitations, entre autres. Là.
Super intéressant. Puis maintenant, la question qui tue là, au niveau de la sécurité anesthésique, c'est quoi la surveillance anesthésique qui est recommandée maintenant en 2025?
Bien, c'est encore là une question intéressante. Une question que où je vois qu'il y a de plus en plus de progrès dans le sens où je crois que la plupart de nos collègues vétérinaires au Québec réalisent que de faire une anesthésie les yeux fermés, là, ça veut dire en n'ayant pas toutes les paramètres possibles, mais on se complique la tâche au contraire de certaines justifications où on pouvait entendre un vétérinaire dire ben moi j'ai jamais mesuré la pression puis j'ai jamais eu de problème donc pourquoi je commencerais à le faire. Je vais facilement vous l'expliquer là, si je conduis mon auto les yeux fermés, je vais peut-être me rendre par chance au bout de la rue, mais éventuellement, c'est sûr que je vais frapper quelque chose. Pour moi, c'est la même chose là, de faire une anesthésie sans monitoring complet. On se complique beaucoup la tâche. On va aussi augmenter le stress sur l'équipe parce que si quelque chose survient, souvent on l'attrape trop tard, donc il peut y avoir plus de risques, évidemment, là, de complications graves. Puis dans toutes les études humaines et vétérinaires, un niveau de monitoring le plus complet possible est associé à une réduction marquée du risque de complications puis de mortalité périanesthésique. Là. Fait que à ce niveau-là, pour moi, il n'y a aucun doute, puis tout le monde s'entend là-dessus. Mais c'est qu'est-ce que ça veut dire un monitoring complet? Je pense que c'est là la question souvent. Au minimum, puis je veux dire, je fais pas du médico-légal en ce moment, mais si je me fie à la pratique et à ce qui est écrit dans les lignes directrices, au minimum, on doit avoir un oxymètre de pouls pour regarder entre autres, bon, fréquence cardiaque, puis également la saturation, évidemment. Une manière de mesurer la fréquence cardiaque qui est fiable, donc notre auscultation, la prise du pouls, une manière de mesurer la pression, donc souvent c'est une pression non-invasive, évidemment, comme une manière oscillométrique, le fameux brassard qui gonfle tout seul puis qui va nous donner les valeurs de pression, ou la technique au Doppler avec un sphygmomanomètre, puis une manière de mesurer la température. Ça, ces éléments-là font partie de ce qui devrait être sur tous les patients sous anesthésie générale, et on pourrait aussi argumenter sur la plupart des patients sous sédation. Là où, puis il y a mon opinion, puis c'est écrit dans la littérature, mais là où je crois qu'on va gagner le plus en termes de réduction des complications, c'est quand les cliniques commencent à incorporer la capnographie puis l'ECG dans leur monitoring. Dans la littérature, c'est écrit que c'est fortement recommandé, donc c'est la bonne pratique d'avoir la capnographie et l'ECG versus les autres termes qui sont vraiment écrits comme étant minimalement, on devrait avoir SpO2, pression non-invasive, température, puis les examens entre autres de profondeur anesthésique puis examens physiques de base, tandis que capno-ECG est mis dans recommandé. Une fois de plus, si on se projette dans 5-10 ans, je crois qu'on va avoir mis la capnographie et l'ECG dans le monitoring de base chez tous les patients, mais il faut se rappeler que la majorité des arrêts cardio-respiratoires en anesthésie vétérinaire sont d'origine respiratoire. Donc, c'est pas là, des crises cardiaques comme des fois on semble noter. Là. C'est souvent qu'on n'a pas remarqué que notre patient s'hypoventile sévèrement ou est en apnée. Puis éventuellement, ça va mener à une désaturation. Puis là, évidemment, le cœur, oui, va éventuellement pas pouvoir supporter cette hypoxémie sévère-là. Donc, avec la capnographie, entre autres, on est capable de prévenir tellement de ces choses-là. Une mauvaise intubation, exemple, intubation trop loin, intubation dans l'œsophage, un apnée. Donc, en tout dédrapé, on ne voit plus que notre patient ne respire pas, mais on le voit directement sur la capnographie. Donc, si c'était de moi, quand les cliniques m'appellent, c'est pas mal ça que je fais maintenant comme consultant, là, je me promène dans les cliniques pour donner de la formation. Quand on m'appelle pour me demander comment est-ce que je pourrais diminuer mes complications avec de nouveaux protocoles, j'explique que souvent, la cause des complications, c'est pas des protocoles mésadaptés. Ça peut faire partie de la réponse, mais c'est souvent un monitoring inadéquat. Puis, le moniteur qui diminue le plus les complications, c'est vraiment la capnographie. Le CG peut être important aussi, mais si j'avais à mettre l'emphase sur un de ces deux moniteurs-là, ça serait vraiment la capnographie, donc qui est de mesurer le CO2 inspiré et expiré pour pouvoir le qualifier la ventilation du patient.
Donc, on devrait pousser la capnographie de plus en plus au courant des prochaines années.
Définitivement, en médecine humaine, ils ont remarqué que le fait de combiner oxymètre de pouls puis capnographie dans les anesthésies de base, exemple pas nécessairement pour quelque chose de très invasif où il y avait déjà tout le monitoring, mais dans des anesthésies plutôt de courte durée pour des procédures non invasives ou moins invasives, mais combiner SpO2 capnographie, ça diminue de plus de 90% les taux de complications graves périanesthésiques. Donc c'est vraiment vraiment important là pour moi de le mentionner, puis je crois qu'on va en entendre de plus en plus parler là.
Tu mentionnais tantôt la pression sanguine dans la surveillance minimale. Qu'est-ce que tu dirais à un médecin vétérinaire qui se questionne sur le bénéfice réel de la pression sanguine étant donné qu'il n'a jamais eu ou qu'il y a eu peu de mortalité dans sa pratique?
Premièrement, je le remercierais de se questionner. Déjà, je veux dire, ça démontre la volonté de peut-être vouloir continuer à s'améliorer. Là. En 2025, puis ça fait longtemps, là, c'est pas en 2024 puis 2025 qu'il y a un changement par rapport à ça, mais en date d'aujourd'hui, en 2025, on est loin du moment où une anesthésie réussie, c'était juste une anesthésie où le patient est encore en vie. Hein. Faut comprendre que les clients s'attendent à ce qu'on puisse leur redonner leur chien, leur chat, leur compagnon, leur animal dans le même état qu'ils nous l'ont donné, si c'est possible. Donc, quand un vétérinaire me dit qu'il n'y a jamais eu de mortalité, mais qu'il n'y a pas de monitoring, je lui explique aussi que la mortalité en anesthésie, c'est pas juste durant, mettons, le 25 minutes où les anesthésiés, c'est 3 jours après, il se met à avoir des complications graves, puis éventuellement, il y a des maladies rénales qui s'installent ou des déficits cognitifs, ben c'est souvent relié à l'anesthésie si elle a été mal gérée. Donc, la mortalité périanesthésique, c'est pas juste durant le moment intra-opératoire, intra-anesthésique, c'est post-op aussi. Donc, je mentionnerais ça. Puis justement, vu que notre but maintenant, ben, c'est de faire une anesthésie où le patient ne souffre pas de son anesthésie, puis a un contrôle de douleur qui est adéquat, a un contrôle de ses paramètres physiologiques qui est adéquat, ben c'est plus adéquat là, de se fermer les yeux puis de se croiser les doigts pour que ça se passe bien. Là.
Donc, ça fait partie de la surveillance minimale maintenant.
Définitivement.
Maintenant, on va aborder quelques notions en lien avec l'analgésie. Pour commencer, là, comment qu'on fait pour choisir le bon opioïde? T'sais, entre autres, là, entre le butorphanol, la buprénorphine ou les agonistes mu complets comme l'hydromorphone ou la méthadone.
Il y a des nouvelles molécules qui sortent de temps en temps. La méthadone, ça fait pas si longtemps qu'on l'utilise plus là, en médecine vétérinaire au Québec. Je comprends que des fois, ces changements-là peuvent susciter là, des questionnements puis peut-être une réticence à vouloir changer. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est que un des plus gros changements récemment, c'est le fait que le butorphanol était souvent mentionné comme étant adéquat pour les procédures douloureuses, minimalement ou modérément douloureuses. Donc, là, on listait certaines procédures comme la castration chat ou d'autres procédures là, moins invasives. On sait que dans les dernières années, plusieurs études ont démontré justement que chez les chats et les chiens, j'exclus certaines espèces exotiques, mais chez les chats et les chiens, le butorphanol est pas suffisant pour la plupart des procédures minimalement ou définitivement pas modérément douloureuses. Donc, pour toutes les procédures qu'on appellerait modérément douloureuses, comme une OVH entre autres, puis certaines OVH peuvent être même sévèrement douloureuses pour les dentiteries, on devrait pas considérer. Pour la castration chat, on pourrait en débattre, mais ici, ce que j'aimerais expliquer, c'est que l'analgésie préemptive, donc le but de mettre l'analgésie avant, durant et après la procédure, va beaucoup, beaucoup aider au bien-être du patient et aussi à diminuer les risques de complications graves parce que il y aura moins de changements souvent au niveau des paramètres physiologiques durant la procédure. Le butorphanol, malheureusement, sa durée d'action est tellement courte, autant chez le chat que chez le chien, qu'on n'est pas capable d'avoir même si c'était un excellent analgésique, ce qui n'est pas le cas, on n'est pas capable d'avoir un bon effet analgésique durant la période post-opératoire. Donc, à la base, quand les vétérinaires me demandent, tu sais, pourquoi est-ce que je pourrais pas garder mon butorphanol, ben, je leur explique qu'il y aurait beaucoup plus d'avantages à changer, exemple, pour la méthadone, qui, comparativement à l'hydro, va avoir souvent moins d'effets gastro-intestinales, moins d'effets au niveau de la nausée, de allaitement, même au moins d'effets au niveau de l'hyperthermie chez le chat, puis offrir, en tant que mu-opioïde complet, un niveau d'analgésie beaucoup plus adéquat pour la plupart des douleurs. Ça ne veut pas dire que c'est adéquat seul, mais dans un protocole multimodal, on est capable d'avoir là, beaucoup plus de stabilité de notre patient avec un myopiède complet. Fait que si je reviens sur les différentes options, butorphanol, maintenant, on sait que ce n'est plus adéquat pour les procédures invasives. Donc, même on pourrait argumenter que la castration chat devrait bénéficier d'un autre opioïde, comme exemple la buprénorphine. La buprénorphine, c'est un mu-opioïde partiel qu'on liste souvent pour les procédures légèrement à modérément douloureuses. Je vais être franc avec vous, je l'utilise même souvent chez des patients, entre autres chez le chat, pour des procédures sévèrement douloureuses, mais dans un protocole où ce n'est pas la seule source d'analgésie. Je vais avoir un INS, des blocs locorégionaux, entre autres. Puis, c'est une drogue que j'aime beaucoup chez le chat, souvent moins d'effets secondaires que d'autres opioïdes comme l'hydromorphone. Puis par la suite, on passe aux hydromorphones méthadone qui sont des mu-opioïdes complets. Donc, on a des agonistes mu complets qui ont plus d'effets analgésiques, mais aussi un peu plus d'effets secondaires selon la dose. Ça ne veut pas dire que je n'utilise pas sur tous mes patients là, qui ont de la douleur. En effet, là, la plupart de mes patients reçoivent méthadone et une combinaison d'un sédatif quand on a une procédure qui est douloureuse. Puis, on est vraiment capable, en choisissant les bons dosages, d'avoir quasiment juste les effets positifs des opioïdes avec le moins d'effets néfastes possible. Je vais juste mentionner aussi là, J'ai mentionné à plusieurs reprises des douleurs légères, des douleurs modérées, des douleurs sévères. Il faut comprendre que la douleur, c'est une expérience qui est personnelle. Même si nos animaux ne peuvent pas communiquer avec nous, un chat qui va subir une castration, puis un chat A qui va subir une castration, puis le chat B qui va subir la même castration avec le même protocole, puis le même chirurgien, le même vétérinaire, pourrait avoir des niveaux de douleur complètement différents. Évidemment, c'est la même chose chez les humains. Donc, à chaque fois que je mets ça dans une case très rigide, il faut comprendre que les patients peuvent répondre de manière personnelle et évidemment de manière non planifiée. C'est pour ça que le WASAVA, le World Small Animal Veterinary Association, a sorti des guidelines, pardon, des lignes directrices de la douleur en 2022. Puis ils ont mis un tableau, le tableau 11, qui s'appelle « Les exemples de procédures médicales et chirurgicales avec leur niveau de douleur perçu ». Et il n'y a pas de niveau seulement « mild ». Le premier niveau commence à « mild to moderate », donc « léger à modéré ». Parce que justement, même si castration de chien, on va avoir une cystite, on va avoir une otite, même si ça se retrouve là-dedans, il y en a pour qui il va avoir beaucoup plus de douleurs. Dans modéré, on va retrouver entre autres les procédures dentaires, les procédures comme l'ovariostérectomie, mais encore là, ça pourrait être dans sévère comme dentaire, se retrouve dans sévère to excruciating, donc sévère à très, très, très douloureuse. Là. Quand on a beaucoup, beaucoup de maladies, là, une maladie parodontale sévère, pardon, puis une inflammation là, des tissus gingivaux importants ou un abcès, puis plein de choses qui peuvent justement augmenter là, la douleur de par leur source inflammatoire très importante. Là. Donc, je voulais juste dire que c'est pas aussi simple que ça, c'est toujours léger, ça, c'est toujours modéré, ça, c'est toujours sévère. Ça varie vraiment d'un patient à l'autre et c'est là que je préfère un opioïde plus complet dès le départ pour pas se faire surprendre. Là.
Puis, est-ce que tu aurais un conseil à donner à un vétérinaire qui a essayé l'hydromorphone ou la méthadone, mais qui trouve que ces animaux sont moins sédatés ou plus dysphoriques par rapport au butorphanol?
Oui, ben en fait, je m'attends à ça quand on fait ce changement-là, dans le sens où si on fait aucun autre changement dans notre protocole, ben les mu-opioïdes complets comme la méthadone ou l'hydro sont moins sédatifs que le butorphanol là, qui est un mu-antagoniste kappa-agoniste. Et c'est sûr et certain que cet effet-là est apprécié souvent, l'effet de sédation plus important du butorphanol. Maintenant, la grande majorité des cliniques utilisent quand même les mu-opioïdes complets, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Puis ils sont quand même capables d'avoir des bonnes sédations avec moins d'effets secondaires que de donner juste une grosse dose de mu-opioïdes parce qu'on adapte nos protocoles. On va combiner, mettons, notre méthadone avec un bon agent sédatif, ou du moins le protocole le plus adapté au patient. Pas juste à son tempérament, mais à son poids aussi. Souvent, je vois des dosages d'hydromorphone, par exemple, à 0,1 mg par kilo. OK, ben 0,1 mg par kilo, ça peut être adéquat sur un petit chien de 2-3 kilos pour une procédure douloureuse, mais un chien de 60-70 kilos, c'est une grosse dose. Hein? On se rappelle là, que nos échelles sont pas linéaires quand on parle en kilos. Ça nous prendrait des échelles en termes de mètres carrés, donc des échelles allométriques. Et à ce moment-là, on se rendrait compte qu'il faudrait couper notre dose d'hydro sûrement de moitié et même plus. Donc, à ce niveau-là, de par juste l'ajustement des doses en fonction du poids, dans les extrêmes de poids, en fonction du tempérament, puis en les combinant avec des bons agents sédatifs, on est capable d'avoir beaucoup plus de pour que de contre à utiliser là, les mu-opioïdes complets.
Puis tu as mentionné aussi tantôt là, l'importance d'avoir une analgésie multimodale. À cet effet, c'est quand qu'on devrait faire une anesthésie loco-régionale?
Les anesthésies loco-régionales, c'est un sujet là, qui a pris beaucoup d'ampleur là, dans les derniers 10 ans. C'était déjà présent avant, mais il y a beaucoup plus de formations disponibles pour les médecins vétérinaires. Il y en a aussi beaucoup plus pour les anesthésiologistes pour faire des blocs de plus en plus complets, de plus en plus complexes, entre autres avec des stimulateurs nerveux, puis maintenant avec des l'échographie, pardon. Donc, l'anesthésie loco-régionale, quand elle fonctionne, elle change tout pour le bien-être du patient et même pour le bien-être du personnel, parce que je vais vous donner un exemple. Une dentisterie où on ne ferait pas de bloc dentaire, où notre technique est peut-être pas adéquate et la plupart de nos blocs ne fonctionnent pas, ben on le voit, hein, le patient, dès qu'on y touche, il se met à respirer plus vite, la fréquence cardiaque augmente, va avoir tendance à vouloir se réveiller. Souvent, on a la mauvaise idée, malheureusement, de le rendormir juste avec une drogue qui va être anesthésique, mais pas analgésique. Donc, on ne règle pas le problème à la source et on a plus de risques de complications en ajoutant ces drogues-là sur un patient qui a mal. Si, à l'inverse, on utilise des blocs qui fonctionnent bien, puis s'ils ne fonctionnent pas, on a la bonne idée de le répéter dans le cadran qui fait mal, bien, ça nous fait des anesthésies qui sont beaucoup plus stables. Quand on fait l'extraction dentaire, il n'y a pas de réaction. Puis quand on ne touche pas au patient ou du moins on ne fait rien d'invasif comme les radiographies, on n'est pas obligé d'avoir, entre autres, nos autres drogues très, très élevées comme l'isoflurane. Donc, il n'est pas ou il est moins hypotensif. Donc vraiment, c'est un avantage sur tous les plans. Donc j'aurais tendance à dire que si vous avez les capacités techniques et médicales pour faire une extraction dentaire, pour faire une amputation, pour faire des chirurgies plus avancées, ben vous avez les capacités de faire des blocs. Il faut juste aller chercher la théorie, puis ça se fait très bien. Il y a plein de formations. Contactez l'anesthésiste que vous connaissez ou les anesthésistes qui offrent ce genre de formation-là, puis vous allez pouvoir vraiment améliorer la qualité de vie de vos patients, mais même la qualité de la médecine puis de l'anesthésie que vous allez faire. Fait que ça, pour moi, c'est clair, ça devrait être utilisé dès qu'on peut l'utiliser. Est-ce qu'il peut y avoir des risques? C'est sûr que oui, mais on les réduit beaucoup quand on a une bonne utilisation des anesthésiques locaux, entre autres. Toujours aspirer avant de faire une injection d'un anesthésique local pour éviter les injections intraveineuses, intra-artérielles. Ne pas injecter s'il y a beaucoup de résistance à l'injection pour éviter les injections intraneurales. Donc, ces détails-là vont faire une grosse différence sur le niveau de risque.
Puis, quand on parle d'analgésie multimodale, on parle aussi d'AINS. Est-ce qu'il y a un moment qui est meilleur que l'autre pour l'administrer, par exemple avant, pendant ou après la procédure?
Ouais, dans la littérature, il n'y a pas de consensus là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui font des recommandations, entre autres, sur des patients en bonne santé, donc des procédures électives pour que l'AINS soit donnée avant. Si je me fais à la littérature, puis à mon opinion personnelle, puis à l'opinion des autres anesthésistes du Québec, tant que l'AINS est considérée dans la période périanesthésique, donc pré-op, intra-op ou post-op selon les justificatifs, ben c'est adéquat. Fait que l'important c'est plus de considérer l'AINS comme un des antidouleurs les plus puissants qu'on a quand on a une douleur d'origine chirurgicale, parce que c'est souvent une douleur d'origine entre autres inflammatoire de par les dommages au tissu qu'on a fait, et c'est là que les AINS vont nous aider énormément. Une clinique me demanderait, est-ce que Fred, je peux donner un AINS en pré-op? Ben moi, la question que je leur poserais, c'est est-ce que tu te sens à l'aise à reconnaître l'hypotension? Donc, tu mesures la pression de manière régulière, puis à la traiter ou la prévenir, mais la traiter si elle survient. Puis si on me dit oui, puis on me démontre que c'est le cas, ben il n'y a aucun problème à donner un AINS avant, puis le patient va pouvoir en bénéficier intra-op et directement dans la phase post-opératoire. À l'inverse, il y a des cliniques qui sont moins à l'aise ou ils ont déjà une mauvaise expérience avec un AINS. Ben à ce moment-là, je le recommande dès que ça va bien durant la procédure, que la pression elle est normale, que le patient n'est pas particulièrement froid, ce qui pourrait aussi diminuer la perfusion rénale, ben on peut administrer l'AINS intra-op quand même pour avoir un effet tôt dans le post-op. Puis à l'inverse, s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, ben on attend que le patient soit revenu à la normale en termes de paramètres physiologiques, puis on peut le donner dans la phase post-opératoire. Je vais rajouter juste un point. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont plus peur des AINS qui devraient en avoir peur. Je ne veux vraiment pas diminuer à quel point ça peut être désagréable un jour d'avoir un patient qui fait une insuffisance rénale aiguë subite alors qu'elle est bien, puis qui vient de recevoir un AINS, ou un patient qui fait un ulcère perforant au niveau gastrique. Mais dans la plupart de ces cas-là, autant dans l'expérience clinique que dans la littérature, c'est relié à une mauvaise utilisation de l'AINS. Donc, un AINS combiné avec un autre drogue comme les corticostéroïdes, où on devrait pas combiner évidemment ces drogues-là, sauf après une période de retrait. L'utilisation d'un AINS chez un patient qui a un statut volémique, une déshydratation puis une hypovolémie importante. On va avoir aussi l'utilisation d'un AINS chez un patient qui ne mange pas pendant plusieurs jours puis qui démontre des signes gastro-intestinaux. Donc, il faudrait vraiment pas se limiter avec cette famille de drogues-là. Puis oui, bien l'utiliser, mais l'utiliser dès qu'on peut le faire sécuritairement parce que les patients en bénéficient énormément. Là,
je reviens à la castration féline encore une fois. Est-ce qu'on devrait prescrire des AINS post-opératoires pour une castration de chat?
Oui, c'est pas parce que le testicule est plus petit que ça fait moins mal. Hein. Tu sais, c'est que tu l'as mentionné tantôt. C'est sûr et certain. Puis en général, juste un AINS pour un 3 à 5 jours selon, c'est suffisant pour une castration chat. Puis ça fonctionne très, très bien. Ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas d'autres analgésies qui sont nécessaires. Puis c'est là où la buprénorphine sublinguale, entre autres, peut être vraiment utile chez le chat. Mais souvent, l'AINS va être la base de l'analgésie post-opératoire pour ce genre de procédure-là. Ouais.
Parfait. Puis pour terminer, est-ce qu'il y a un inconvénient à administrer la tipamisole immédiatement après une chirurgie dans le but d'accélérer le réveil? Par exemple, les cliniques qui font ça d'office, c'est que ça fait partie de leur protocole.
Bien, j'aurais tendance à leur dire que c'est pas tous les patients qui en ont besoin. Puis à l'inverse, une clinique qui me dirait, moi, je ne réverse jamais, mais je leur dirais, il y a plusieurs patients qui en ont besoin. Donc, c'est vraiment, bon, au jugement du vétérinaire, mais c'est important d'utiliser dans les moments où c'est important d'utiliser, finalement. Je vous donne des exemples. J'ai un patient qui a été profondément sédaté par sa prémédication. Exemple, il a reçu une combinaison de butorphanol ou de méthadone, puis de dexmedetomidine. Ben, juste avoir le niveau de profondeur important suite à la prémédication, je me doute qu'en post-op, il y a des chances que j'ai besoin de le réverser. Fait que je le réverserai pas d'office, mais dès que j'arrête l'agent volatile, puis que il y a quelques minutes qui passent, si je vois qu'il y a aucun des réflexes qui reviennent, ben là je vais commencer à le considérer. Par contre, tu as raison, quelqu'un qui le fait sur tous les patients, ben il faut comprendre que quand on réverse nos alpha-2-agonistes, la première chose qu'on réverse, même avant de réverser l'effet sédatif, c'est l'effet analgésique. Donc je ne recommande pas de le faire chez tous les patients. Je recommande de le faire là où on va gagner sur la sécurité, entre autres en évitant les réveils très, très prolongés d'un chat ou d'un chien qui serait, entre autres, seul dans sa cage, pas de surveillance, très sédaté. T'sais, on ne voudrait jamais remettre les patients sans surveillance tant qu'ils ne sont pas là, revenus normothermes, puis entre autres revenus avec la capacité de se tenir en sternal, tenir leur tête par eux-mêmes. Donc, c'est là où l'utilisation, quand c'est important, parfait, faites-le, puis je le fais à tous les jours. Mais le faire sur tous les patients serait peut-être pas adéquat non plus parce que des fois, on se prive d'une analgésie qui peut être intéressante. C'est rarement notre seule analgésie, je l'espère. Là. Si vous avez une procédure douloureuse, je ne mise pas juste sur les alpha-2-agonistes, mais souvent, ils peuvent avoir une composante d'analgésie intéressante dans notre protocole. Donc, si je dois m'en passer, c'est correct. Mais si je peux la garder, ben j'essaie de la garder. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Oui, donc dans le fond, il faut utiliser notre jugement puis s'adapter aux patients.
Exactement. Puis j'aimerais juste rajouter que si vous réversez un patient parce que vous jugez que son réveil est trop lent, ce qui est parfait, vous avez utilisé votre jugement, comme tu viens de dire, puis qu'il se réveille pas, ben considérez d'autres choses. T'sais, faites pas juste réverser à l'infini, là, dans le sens où on considère d'autres raisons de réveil prolongé, comme un patient qui serait en choc, donc on réévalue peut-être les paramètres de base, comme fréquence cardiaque, pression, de l'hypothermie importante, évidemment, ça c'est assez classique. Puis sinon, chez certains patients à risque, comme les jeunes patients ou les très petits patients, l'hypoglycémie, ou l'effet de d'autres drogues résiduelles. Hein. Ça, c'est assez classique. Là. Un grand chien qu'on donne 0,3 mg par kilo de butorphanol, puis un tout petit peu de dexdo, puis il reste très, très lent à se réveiller. Souvent, hein, on minimise l'effet du butorphanol avec un dosage qui est moins adapté, exemple, sur un gros chien, comme à 0,3 mg par kilo. Ben, c'est là où, non seulement, je vais sûrement avoir à réverser mon alpha-2-agoniste, mais je vais aussi réverser mon butorphanol avec de l'naloxone. T'sais. Fait que c'est faut juste garder une vision globale de pourquoi mon patient se réveille pas, puis pas juste tomber dans le modèle je réverse à l'infini sans me poser une question. Là. Ouais.
Parfait, super. Mais ça fait le tour de mes questions aujourd'hui. Je te remercie vraiment beaucoup d'avoir pris le temps là, de nous éclaircir sur ces petites notions-là d'anesthésie.
Ben ça fait plaisir. Merci. Merci pour les questions. Là, c'était vraiment des questions hyper pertinentes. Puis dans la liste des questions, c'est pas mal toutes ceux que je reçois le plus souvent. J'aurais tendance à dire qu'il y a rien qui remplace le jugement vétérinaire là, dans le sens où je pourrais quasiment trouver une exception à la plupart des choses que je vous ai dites. Tant que ça justifie, puis tant que vous avez essayé de faire le plan A avant de faire le plan D, ben je pense que vous faites un excellent travail. Puis n'hésitez jamais là, à consulter là, des gens en anesthésie. Si vous avez des questions, là, on est là pour vous aider.
Si, à la lumière de ce balado, vous considérez que vos protocoles anesthésiques ont besoin d'un peu d'amour, des ressources en anesthésiologie sont disponibles sur la page web du balado. Évidemment, modifier ses habitudes en anesthésie peut être très insécurisant. N'hésitez surtout pas à consulter un collègue ou un spécialiste qui pourra vous épauler dans la mise à jour de vos protocoles.
L'Ordre des médecins vétérinaires du Québec remercie La Personnelle, assurance de groupe auto, habitation et entreprise, commanditaire de ce balado.